aujourd'hui, c'est une grosse journée pour l'organisme Handicap International. C'est la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine. J'ai au bout du fil le directeur du bureau de Montréal de Handicap International Canada, Jérôme Bobin. Bonjour.
Bonjour Maxime.
Ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, donc grosse journée aujourd'hui. On présume qu'il doit y avoir plusieurs demandes d'entrevue.
Oui, grosse journée, mais pas spécialement pour Handicap International, mais pour toutes les victimes de mines antipersonnelles à travers la planète. On est en effet dans une journée internationale qui nous permet, à nous, acteurs du déminage, de l'assistance aux victimes, de rappeler qu'on est là sur un sujet qui est quand même très actuel, hein, malgré ce qu'on pense. Les mines antipersonnelles, c'est pas seulement un héritage des conflits passés, c'est aussi quelque chose de très présent aujourd'hui au Yémen, en Syrie, et on est confronté à l'usage à la nouvelle utilisation en fait de mines antipersonnelles.
Justement, la lutte contre les mines antipersonnelles, c'est la base de la mission de Handicap International.
Oui, on est né pour ça, contre ça. Il y a une trentaine d'années, on était à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Et puis là, on s'est retrouvé à accueillir dans les camps de réfugiés des amputés, des personnes qui fuyaient le Cambodge et qui marchaient sur les tapis de mines antipersonnelles. Et puis, nous, nos fondateurs, il y a 30 ans, se sont dit, mais on peut pas laisser ces gens comme ça, dans les camps de réfugiés, au fond des tentes, sans appareillage. Donc, on a décidé de créer des appareillages peut-être pas aussi parfaits que ce qu'on aurait actuellement, mais en tous les cas, des appareillages qui leur permettraient de se remettre debout, tout simplement. Et tout est parti de là, de cette volonté de ne pas laisser ces personnes-là dans l'oubli, dans l'ignorance, mais leur redonner une place dans le paysage.
Qu'est-ce qu'une mine antipersonnelle, par exemple? Je parle surtout pour nos auditeurs. Comment on peut la décrire? C'est quoi la différence, par exemple, par rapport à une arme à sous-munition?
Alors, une mine antipersonnelle, ça va souvent être un boîtier, un petit boîtier, pas très grand, hein, d'une dizaine de centimètres de diamètre, quelque chose de rond, qui va être enfoui dans la terre et qui va avoir un mécanisme de déclenchement sur le dessus ou alors avec un fil bien dissimulé. Et donc, quand la personne va marcher ou se prendre les pieds dans le fil, ça va faire exploser cet engin qui est dissimulé au sol. À l'inverse, une bombe à sous-munition ou une sous-munition, c'est quelque chose qui sera plutôt largué dans un conteneur, une sorte de missile avec à l'intérieur plein de petites bombes. Et ces bombes vont se répartir sur un large territoire, exploser dans le meilleur des cas ou ne pas exploser. Et c'est là où le problème arrive, c'est qu'elles vont rester coincées sur des toits, dans les arbres, dans un jardin. Elles vont se poser comme ça au sol dans la végétation. Et du coup, une personne peut être en contact avec ces armes-là aussi.
Quel est l'avantage pour un pays d'utiliser ces mines? Ça a l'air d'être une question un peu dure à entendre, mais tout de même, on sait que c'est encore utilisé et c'est même en recrudescence depuis 2 ans.
C'est un vrai sujet. Les mines antipersonnelles, en fait, c'est des armes de manipulation psychologique, c'est-à-dire qu'on crée des communautés qui vivent dans l'angoisse de savoir est-ce que le chemin que je vais prendre là, il est miné ou il est pas miné. Il y a un vrai aspect psychologique dans l'usage de mines antipersonnelles. Et puis, il y a aussi la volonté pour les utilisateurs de ces armes-là de laisser un héritage un peu macabre ou difficile, en tous les cas, à la société visée, parce qu'on va laisser une population de personnes en situation de handicap. Et donc, dans des sociétés moins développées, dans un contexte de pauvreté, ça va être très dur d'accompagner la personne en situation de handicap, de l'accompagner avec d'abord un appareillage, mais après, avec des soins de physio, avec tout un processus de réinsertion économique, réinsertion sociale. Et donc ça, les utilisateurs de ces armes savent très bien qu'en mettant des mines antipersonnelles, ça va laisser un fardeau à la société assez important.
Quelles sont les zones actuellement où est-ce qu'on retrouve le plus de mines antipersonnelles ou bien où est-ce que c'est dangereux de s'y trouver, d'y habiter?
Alors, il y a déjà une cinquantaine de pays qui sont concernés, donc ça fait beaucoup. Si on passe continent par continent, en Amérique latine, on en trouve beaucoup en Colombie, j'en reviens, j'ai eu l'occasion d'en parler sur cette antenne aussi déjà. Colombie, Pérou, ça c'est les pays en Amérique latine qui sont les plus concernés. Après, en Afrique, on en a un peu partout, malheureusement, notamment au Sénégal, on en a au Tchad, on en a en République démocratique du Congo, on en a pas mal en Afrique du Nord, la Libye aussi. Tout le Moyen-Orient actuellement, j'en ai parlé, le Yémen, la crise en Syrie, les frontières avec la Syrie. On en trouve aussi en Inde et puis énormément en Asie du Sud-Est. C'est un héritage des conflits des années 70 et qui reste toujours d'actualité.
Quand le traité d'interdiction des mines antipersonnelles a-t-il été ratifié?
Il a été ratifié, il a été signé, ouvert la signature en 97. Et puis après, avec le jeu des ratifications qui sont nécessaires pour sa vraie entrée en vigueur, il est entré en vigueur en 99.
Et en quoi exactement consistait ce traité et quelle est la part du Canada par rapport à ce traité?
Alors, je vais commencer par la fin. La part du Canada, elle est importante, vu que ce traité porte le nom de la capitale canadienne. On appelle ça le traité d'Ottawa. Donc à cette époque, le gouvernement canadien s'était beaucoup mobilisé pour réunir autour de lui à la fois des États qui étaient intéressés à interdire ces armes et des acteurs humanitaires comme Handicap International, mais comme bien d'autres aussi, pour que tous ensemble, on aboutisse à un traité qui était le premier de ce genre, qui était le premier traité à interdire une arme dans l'histoire humaine. C'est-à-dire il n'y avait jamais eu de traité qui interdisait l'usage, la fabrication, le commerce d'une arme. Donc ça a été un vrai apport, c'est-à-dire c'est une vraie révolution en termes de droit humanitaire. Après la mise en œuvre et qu'est-ce qu'il y a dans ce traité? Le traité, il est très clair, c'est-à-dire qu'il interdit l'usage, il interdit la vente, il interdit la production de ces armes, et puis il oblige tous les signataires de ce traité à assister les victimes, assister soit en dépeuillant, déminant les territoires, soit en appareillant et puis en facilitant la réintégration socio-professionnelle des individus.
Retirer les mines, c'est très dangereux. C'est sûrement très coûteux aussi.
Oui, c'est le problème. S'il y en avait qu'un, non, il y a plusieurs problèmes avec les mines antipersonnelles, mais en effet, c'est très coûteux parce que ça prend des hommes, tout simplement. C'est un travail qui peut être fait avec des outils mécaniques ou même des animaux qui vont avec leur flair aller sentir s'il y a un problème ou pas. Mais au final, il faut toujours un contrôle humain et utiliser des hommes très basiquement dans n'importe quel pays du monde, utiliser des expertises, ça coûte très cher.
Le danger que représentent certains terrains minés doit aussi avoir des impacts sur l'économie, sur l'agriculture même de différents pays. Est-ce que vous soutenez aussi les communautés dans ces cas-là?
C'est bien pour ça aussi qu'on démine, nous, les territoires. C'est pour redonner finalement accès à ces terrains-là pour cultiver, pour élever des animaux. On est typiquement dans cette situation-là en Colombie, avec des territoires entiers qui ne sont pas accessibles aux communautés qui vivent là, parce que des mines antipersonnelles bloquent l'accès à ça. Donc c'est un vrai frein au développement. Les mines antipersonnelles, on va souvent tout de suite penser à l'amputation. Oui, il y a l'amputation, mais il y a aussi tout ce que ça empêche. Ça empêche de construire des routes, ça empêche de mettre des pylônes électriques, ça empêche de mettre des canalisations d'eau pour du tout à l'égout, n'importe quoi. Ça empêche de cultiver, ça empêche d'élever, ça empêche un pays, une communauté de se développer.
Tout à fait. Jérôme Bobin, on lisait récemment justement un état de fait, si on veut, sur l'utilisation des mines antipersonnelles qui était en baisse continue depuis plusieurs années. L'élan s'est inversé sur le dernier exercice auquel on a accès, qui est de juillet 2014 à juillet 2015, où le nombre de morts et de blessés a grimpé de 12 %. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence soudaine alors qu'on avait fait tout de même des bons progrès depuis la fin des années 90?
Ce qui explique, c'est ce qu'on lit tous les jours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans la presse, c'est-à-dire c'est les conflits, la crise en Syrie, le conflit au cœur de la Syrie qui fait fuir énormément de personnes. Mais si ces gens fuient la Syrie, c'est bien parce qu'elles sont en danger d'exploser sur ce type d'armement qui est utilisé par beaucoup de parties au conflit. C'est la même chose au Yémen, ça a été la même chose en Ukraine récemment, avec les différentes forces en présence qui ont utilisé ces armes explosives. Voilà, la recrudescence, elle est malheureusement mathématique, c'est-à-dire que plus on utilise ces armes dans les conflits actuels, plus le risque, et on le voit bien, d'accident augmente.
On a parlé des actions d'Handicap International dans la lutte aux mines antipersonnelles, les actions qui sont menées sur le terrain, donc à l'international. Évidemment, Ce n'est pas quelque chose auquel on est confronté au Québec et au Canada. Par contre, vous êtes quand même actif au niveau de la sensibilisation et des actions politiques qui sont menées ici.
Alors, on aimerait être beaucoup plus actif en termes de sensibilisation. Après, on a beaucoup de combats. Handicap International a beaucoup de combats sur la table. Finalement, et les mines ne sont qu'un combat d'Handicap International. Par contre, politiquement, on s'entend qu'on a devant nous un gouvernement, que ce soit l'ancien ou le nouveau, finalement, qui est très lié au traité d'Ottawa, ne serait-ce que parce qu'il y a son nom, le nom de la capitale canadienne étant lié au traité. Ça donne une forme de responsabilité de notre gouvernement. Après, il est vrai que depuis quelques mois, on assiste quand même à une prise de position plus ferme pour que le travail contre les mines antipersonnelles soit renforcé. C'est très bien, on va s'en réjouir. Il faut maintenant que ce soit transformé en acte, en effet. Et derrière, et on y travaille, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des partenaires dans le Canada anglophone qui sont très engagés aussi sur cette thématique-là. Et on travaille tous ensemble à faire en sorte que notre pays reprenne la place qu'il doit avoir dans cette thématique.
En terminant, Jérôme Bobin, si on veut soutenir les actions de Handicap International, comment on fait?
Différents moyens. Si on reste sur le politique, en parler à son député, à son représentant parlementaire, c'est déjà une chose importante. On a tous accès à des réseaux sociaux, donc on peut partager un certain nombre d'informations, on peut partager un certain nombre de mobilisations. Et puis nous qui sommes actifs sur le terrain, forcément, on a toujours besoin de financement, on a besoin de ressources financières pour mener à bien à la fois les projets de déminage et les projets d'assistance aux personnes victimes de ces armes.
On mettra l'information, notamment pour aller sur votre site web et vos médias sociaux, sur la page de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui, M. Jérôme Bobin, directeur général du Bureau montréalais de Handicap International Canada. Merci.
Merci à vous.